Alors, Pierre-Yves, Amazon, encore Amazon, prend sa part également de la tarte publicitaire.
Oui, parce que le capitaine eMarketer a publié une étude et dit, regardez, là, Google et Facebook, là, ils vont chercher près de 58% des publicités numériques aux États-Unis. Et là, Amazon va chercher un plus de 4,6 milliards, donc 4,2% des parts de marché. Donc, imagine, là, quand t'es un géant du web aujourd'hui, comment que ça nuit aux marchés locaux parce que t'as un avantage. Un, quand quelqu'un cherche maintenant un produit à acheter ou un service, on va sur le web, donc Google dans un moteur de recherche, mais Amazon vient chercher sa tarte parce que là, les gens se disent « Ouais, quand je cherche un bien, j'irai pas sur Google, je vais tout de suite aller voir combien il coûte sur Amazon pour avoir le meilleur prix. » Donc, les gens qui veulent faire de la publicité s'en vont là. Et par la théorie de l'effet de réseau en économie, c'est de dire « Les plus gros joueurs ont l'avantage de générer les réflexes des utilisateurs et de générer les réflexes des annonceurs. » Donc, plus ils vont être gros, plus ils vont attirer les annonceurs et plus ils vont attirer les consommateurs et plus leur position va être dominante. Donc, au niveau du marketing, grâce à eux, on peut cibler parce que toi, t'es allé sur Amazon sûrement. Tu sais, quand t'achètes un produit, ils te disent « Hey, t'as pensé à tel produit? » Les gens qui ont acheté tel produit…
ont également acheté ceux-ci.
Exactement.
Dans le bas.
Et tout ça explique, Paul, pourquoi l'action d'Amazon est une courbe exponentielle. Écoute, depuis 2004 à 2010, là, il y avait une petite montée, mais à partir de 2014, c'est vraiment une courbe très exponentielle, si bien que là, l'action a pris 100% de rendement en un an. 100% de rendement en un an pour un titre, c'est incroyable. Et on voit très bien que c'est au niveau des services, donc des revenus qui sont autres que la vente de produits, qui a une croissance phénoménale. Écoute, sur 53 milliards de ventes nettes, on a 21 milliards de ventes de services, bien que les gens pensent à Amazon en premier pour les produits. On s'en va dans les services infonuagiques et autres produits.
C'est pas surprenant. Couche-Tard et la divulgation des enjeux sociaux et environnementaux.
Ouais, Couche-Tard ne veut pas divulguer des enjeux puis des rapports, des obligations. Et là, on dit, écoute, on est ouvert, donc on va évaluer les différentes options à la présentation de l'information concernant nos projets, etc. En somme, c'est pas compliqué. Pourquoi on veut avoir de l'information sur le développement durable et les enjeux sociaux? C'est que ça s'en vient. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le GRI, là, le Global Reporting Initiative, qui dit « Regardez les autres choses à divulguer que vos données financières. » Mais Couche-Tard a un problème parce que d'un point de vue business et d'enjeux environnementaux et sociaux, Couche-Tard se base sur des faibles revenus, tu sais, des faibles salaires des gens. Deuxièmement, on vend beaucoup de cochonneries parce que c'est des achats impulsifs. Après avoir été à la pompe, on achète des choses, des gâteries. Et là, donc, l'impact social est un peu mauvais. Et à la pompe, on vend du pétrole. Donc, tu comprends que pour Couche-Tard, si on ajoute à ça l'empreinte environnementale des transports, Couche-Tard n'a pas, une position enviable au niveau de la recherche, au niveau du développement durable, si tu veux.
Ouais.
Et donc, ça fait en sorte que Couche-Tard va y aller tranquillement, pas vite, selon les obligations. Mais quand on parle d'économie, d'environnement, de droit, de relations sociales, de responsabilité de société, c'est sûr que si t'es Couche-Tard, t'aimes mieux en divulguer le moins possible.
Le volet finances personnelles, est-ce que c'est bon ou pas bon de s'incorporer?
On en parlait dans le Journal de Montréal, j'apporte un angle comptable. Okay? Premièrement, ceux qui se partent en entreprise se disent souvent « Ah, je vais m'incorporer ». Donc, première des choses, on se calme un peu le pompon, on se demande « Je vais-tu faire de l'argent ?» Parce que si vous faites de l'argent, ça vaut la peine de s'incorporer parce que vous pouvez différer l'impôt personnel, pas l'impôt d'entreprise, mais l'impôt personnel, si vous laissez les liquidités dans l'entreprise. Mais si vous dites « Écoute, j'ai pas mal le choix, là, j'en ai besoin chaque année », vous allez payer des comptables pour rien, des états financiers,
et des
obligations légales.
Et
c'est
des
ça,
dividendes
donc,
imposés.
Les dividendes sont imposés quand tu les verses personnellement ou comme du salaire.
C'est
puis,
ça.
Mais ce qui est bon, par exemple, des fois, Paul, c'est de mettre un petit risque de poursuite, l'éliminer, parce que c'est une personne morale. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a un avion, par exemple, qui est pilote d'avion, puis qui a son avion, puis qui vend des services, mais c'est bon d'avoir une personne morale comme ça. S'il crée un accident ou des pertes matérielles à des entreprises, l'entreprise va poursuivre qui est la personne morale, qui est l'entreprise, et ça va des fois... Parfois, l'incorporation peut créer une personne morale qui empêche d'avoir un lien légal entre le particulier et son entreprise. Donc, on réduit, si tu veux, l'exposition légale à des poursuites. Donc, et si on a des partenaires d'affaires, on le dit dans le journal, on peut restructurer ça comme il faut pour dire, dépendant du type d'actionnariat ou de partenariat qu'on a, on peut se donner des avantages ou autres. Mais avant de s'incorporer, Paul, par la comptable, un avocat ou un notaire pour dire, ouais. Coudonc, ça vaut-tu la peine de faire ce genre de choses-là pour nous?
Merci beaucoup, Pierre-Yves. À demain.